Cet épisode de Coup Critique est une présentation de la Triche Bistro-Ludique à Saint-Eustache. Joignez-vous au groupe Facebook Adventures League et Club de jeux de la Triche et venez jouer à Donjon Dragon ou essayez la grande sélection de jeux de société avec vos amis dans une ambiance des plus chaleureuses. Bonne écoute!
Épisode numéro 6, le Comic-Con de Montréal et les objets magiques. Bienvenue à Coup Critique!
Dans le fond, je suis stressé, mais pas parce que moi je run une game, je suis stressé parce que je vais la jouer, puis qu'avec la Mac, mon barbare, quand je joue la game d'Eric, je lui dis, c'est la fin du tier 2 pour plusieurs personnes, on est tous level 10.
Ouais, puis, c'est vrai.
J'ai un story award que j'ai eu quand j'étais level 2, je pense, dans l'aventure d'introduction d'Exanator, du livre, Xanator's Guide to Everything. Puis dans cette aventure-là, j'ai fait un deal avec une petite globule de lumière qui m'a guidé à travers l'aquarium d'Exanator pour sortir de là. Puis ça disait que vu que j'avais fait un deal, l'important c'est que lui il voulait être libéré, puis que je devais tuer Xanator aussitôt que si je le voyais un jour. Je pensais jamais que je le verrais ou quoi que ce soit. Puis en gros, ben, je suis compelled, là, excusez l'anglicisme, mais j'ai pas le choix de l'attaquer aussitôt que je le vois. Puis chaque tour, c'est comme un aura magique que j'ai sur moi. Puis chaque tour,
c'est un curse, c'est carrément
un curse. C'est ça. Puis chaque tour que je prends, puis que je suis à côté de lui, puis que je l'attaque pas, ou j'essaie pas de l'attaquer, pas besoin de toucher ou quoi que ce soit, il faut juste que je fasse de l'attaque. Je prends 3 des 10 de psychique. Tu sais, du coup, j'ai un barbare, c'est correct, c'est sa job dans la vie d'attaquer, mais il reste quand même que c'est assez intense comme situation. Puis quand j'ai dit à Eric, il dit de ça, pourtant ça le mentionne dans le module, que si quelqu'un veut ça, etc., etc. Fait que c'est vraiment drôle. Ça va être assez spécial. Fait que les pourparlers, je suis pas sûr qu'il va en avoir.
On va entrer assez vite dans le vif du sujet.
Il va falloir que je t'endorme, mon Joe.
Et puis c'est pas un spoiler parce qu'il savait là, qu'il s'en allait vers la fin de la deuxième partie de la trilogie. Là, c'est comme évident là, qu'ils vont le rencontrer.
L'objet qu'on cherche, c'est lui qui spoiler.
Ouais. Salut tout le monde, bienvenue à Coup Critique. Bienvenue à notre 6e épisode. Ma foi, beaucoup de contenu. C'est l'été, on est un peu plus lousse, on a décidé d'essayer de profiter un peu du soleil, d'essayer de rouler bien des parties aussi. Vraiment content cette semaine d'avoir toujours Eric.
Yes, bonjour tout le monde.
Mike.
Hello.
Et Joe.
Yes, sir.
Fait que cette semaine, en fait, on va commencer ça. Eric était notre attaché culturel. Non, en fait, il y avait le Comic-Con au début juillet, puis Eric était intéressé à aller avec un de nos bons amis, Alan, qu'on salue. Alan qui nous écoute dans son char électrique, là, qui nous a fait mettre sur TuneIn juste pour être capable de nous écouter dans son char. Puis, dans le fond, vous avez été ensemble au Comic-Con, c'est ça?
Puis, oui, exact.
C'est sûr que Comic-Con, les gens connaissent plus ça, surtout pour bon tout ce qui est culture populaire, les comics, les films, les séries TV. Mais il y a quand même un gros volet qui est sur les jeux de société puis les jeux de rôle, on s'entend, là. Toi, Eric, je pense que c'est ça qui t'intéressait un petit peu plus là-bas ou tu y allais pour d'autres choses?
Ben en fait, j'y allais pour deux choses. J'y allais parce que j'avais jamais été au Palais au Comic-Con, en fait. C'est une bonne occasion pour moi de me saucer. Puis ça s'est décidé pas mal à la dernière minute. Il y avait l'épique qui m'intéressait. Puis il y avait aussi d'autres parties de Organized Play qui étaient cédulées que j'avais jamais fait aussi. Que j'avais demandé à Alan qui avait jamais fait d'épique s'il y allait. Puis on s'est coordonné pour aller là ensemble. Lui est arrivé un petit peu plus tard. Fait que moi en avant-midi, pas en avant-midi, mais au début de l'après-midi, j'ai été en mesure de faire une autre partie que j'ai adorée. Puis c'est probablement une partie que je vais rouler à la Triche pour des nouveaux joueurs. C'est un CCC Unite. C'est une excellente introduction. Possiblement la meilleure introduction à D&D 5e qu'un DM pourrait rouler pour des nouveaux joueurs, honnêtement.
Ah ouais.
Parce que sans rentrer dans les détails, ça te fait faire des jets. C'est comme un training, si on veut, camouflé, sans trop donner de détails, qui va à travers tous les jets de sauvegarde que tu peux faire de façon roleplay pour expliquer qu'est-ce qui peut se passer si tu fails un jet de force, un jet de dex, un jet de constitution, wisdom, charisme, etc. Fait que ça touche absolument à tout. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment smart. Puis j'espère que j'ai pas regardé sur DM's Guild s'il était disponible. Là. Mais aussôt qu'il est disponible, c'est sûr que ça va. Je rajoute ça à mon arc de parties que je peux rouler, surtout pour des. Un paquet de niveau 1, là, c'est parfait. Là. C'est vraiment l'idéal.
Ben oui, puis on le sait, juste où on joue, il y a de plus en plus de monde qui sont intéressés à commencer à jouer. Et aussi, ouais. Notre podcast s'adresse à pas mal tout le Québec, mais des échos que j'ai eus, il y a des clubs qui sont en train de se créer, il y a de plus en plus de joueurs qui sont intéressés à commencer à jouer, que ce soit à D&D normal ou à Adventures League. Là. Donc, ouais. Vraiment cool. On essaiera de mettre le nom de la quête sur l'article de la page consacrée à l'épisode d'aujourd'hui là, pour donner ouais, peut-être là. La référence aux gens pour qu'ils essaient de retrouver ça, si ça vous intéresse. Puis ouais. Comment ça a été tes games, mon Eric?
Comme je disais, la tier 1 que j'ai faite a été excellente. Comme je disais, c'est une des meilleures tier 1 que j'ai fait ever, là. Tout saison confondue. J'ai adoré, le DM était super bon. Il était très inclusif, donc il parlait à tous les joueurs. Il faisait du back vocal aussi, les voix pour ses personnages. Le rythme était bon. Ça, j'ai vraiment adoré. Par contre, malheureusement, je ne sais pas si c'est moi qui deviens de plus en plus difficile, parce qu'on a tellement d'excellents DM.
Toi, difficile, voyons!
j'ai pas tant aimé, puis c'est une opinion générale, en fait, des joueurs qui étaient autour de la table. Le rythme était pas super pour les pics. Sans nommer le nom, puis je veux pas, tu sais, c'est hyper difficile d'être DM, puis tout le monde le sait, là, vous êtes des DM vous aussi, ça prend beaucoup de préparation. N'importe quelle petite chose peut faire dérailler une aventure. Puis malheureusement, le DM qu'on avait à ce moment-là, je suis sûr qu'il aurait pu être bon dans d'autres circonstances, mais ça manquait de préparation. Le rythme n'était pas super. Même si l'aventure en général qui était proposée aurait pu être vraiment épique, le nom le dit. je trouvais que c'était décousu un petit peu, les combats c'était lent. Les tours étaient lents aussi, donc on perdait un petit peu d'intérêt. Fait que la journée avait bien commencé, puis ça s'est plus ou moins bien terminé, disons, avec les pics. Mais j'ai quand même eu du plaisir là, au courant de ma journée.
OK. Puis en termes de kiosque, là, parce qu'on s'attend que Comic-Con, c'est beaucoup une foire aussi à plusieurs personnes qui exposent leurs produits. Tu as envoyé quelques photos, en fait, de ton passage, mais y a-t-il des choses qui t'ont intéressé plus, peut-être des produits ou des auteurs ou des créateurs reliés au jeu de rôle qui ont attiré ton œil?
Ben, le premier que j'ai adoré, c'est Fate of the Norns, que vous avez vu les photos, puis ça, c'est quelque chose que Mike connaît. Tous les produits Ragnarok, en fait, qui est un... Il y avait tous leurs produits, non seulement les RPG, mais il y avait des livres aussi, les genres de livres dont vous êtes le héros pour les Vikings. Mais tout ça dans le même univers. Mais le roleplay, le jeu de l'RPG, dans le fond, avait l'air vraiment, vraiment solide. Malheureusement, je ne l'ai pas acheté. Parce que je sais que Mike voudrait peut-être nous le faire essayer éventuellement. Fait que j'ai pas trop osé. Le kiosque était super beau. Donc, cette portion-là, c'était vraiment intéressant.
C'est vraiment le module de 5e édition là, que j'ai poigné. Là.
Toi, c'est relié avec la 5e?
Moi, c'est le Ragnarok. Ah, tu parles-tu du jeu avec les runes, là?
Ouais, Fate of the Norns.
Ouais, je l'ai vu quand il y a plusieurs années qu'il va au Comic-Con, lui, en fait. Quand je suis allé, il y a 3 ou 4 ans, il était là, puis j'avais essayé son petit jeu. Mais en fait, essayer comment ça fonctionnait, là. C'était quand même c'est très intéressant, c'est côté storytelling, mais c'est pas la même chose que je vais te faire essayer.
Ok.
C'est vrai que ça va l'air intéressant, son petit jeu.
Ragnarok, ça va l'air intéressant. Plus, on va dire avec plusieurs types de jeux sous la même bannière. Nice. Je ferais peut-être une recherche là-dessus pour qu'on puisse se faire peut-être une partie ou autre là, par rapport à ça.
Mais oui, juste découvrir ça serait le fun. Ouais.
Ouais. Ouais. Ça, c'était un des kiosques. Les autres photos que j'avais publiées, ben, je ne sais pas si tu l'as mis sur le site, mais je suis maintenant le propriétaire d'un Dice Tray de Wormwood. C'était déjà vraiment longtemps que j'en voulais un. Puis juste de sauver sur le shipping, puis il était au cost, sur place. Donc, le tree que je voulais, au lieu d'être 145, il était 110$. Excellent produit. Là, je l'utilise depuis que je l'ai. Puis c'est la fin de ma vie. Là. content.
Ouais, pour ceux qui ne savent pas, Wormwood, en fait, c'est une compagnie en fait, des États-Unis. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent des produits, tous des accessoires de jeux, de table, que ce soit des jeux de société ou des jeux de rôle. Mais c'est tous des accessoires pour aider les joueurs à avoir, par exemple, meilleure ergonomie, puis des accessoires. Mais tout est fait dans un bois noble. Il y a plein de choix. C'est vraiment des ébénistes. Là, tu sais, c'est des œuvres d'art, là, ce qu'ils font vraiment. Mm-hmm. Là. Puis ils conçoivent aussi des nouveaux produits. Ils développent des choses. Là. Ils ont été vraiment connus beaucoup à cause de leur commandite récurrente dans l'émission Critical Role. Puis ils ont une chaîne YouTube qui est super populaire aussi, qui s'appelle Worm Live. Je vous conseille d'aller voir ça. Les gars sont vraiment le fun, c'est vraiment une belle shop, beaucoup de savoir-faire dans cette cette shop-là. Là. Ouais.
C'est des vrais artisans. Puis il y avait des produits exclusifs qui étaient là, mais qui n'avaient pas en stock. Un des dice tray ou un des dice rollers, puis des dice rollers qui étaient affichés, c'était un les nouveaux qu'ils ont fait pour D&D, donc pour oui. Donjons et Dragons exclusif. Donc c'est un bois d'ébon noir avec un cuir noir à l'intérieur, puis t'as le logo de Donjons et Dragons en rouge vraiment éclatant au milieu du cuir. C'est écrit Donjons et Dragons dans le petit espace où tes dés se reposent sur une partie.
Ouais.
Mais lui il était vraiment plus cher, on parle de 265 $ canadiens. Wow.
C'est le cas de le dire, tu payes pour le nom.
tu payes pour le nom, puis c'est un branding, mais écoute, ils sont uniques, là, ils étaient ouais. vraiment beaux. Ouais. Leur produit Highlight, c'est leur table de gaming là, incroyable.
Ah, ça, c'est beau.
Ils sont vraiment hyper dispendieuses. Il y avait une table en démo, puis ils avaient amené la table toute équipée avec les cup holders magnétiques, le cover de table qui change de bois à genre, c'est un genre de fini Suède. Puis il y avait une map complète de Dwarven Forge à même la table, donc un mini donjon monté avec les. C'est rendu leur partenaire là. Écoute, tu t'assois à cette table-là, puis tu dis ok, moi je vais partir d'ici. Je sais pas c'est quoi l'aventure qui se passe ici, mais je veux la jouer, tu sais.
J'ai toujours rêvé, tu sais. Tu fais une gang de gars qui se mettent ensemble, une gang de gamers qui se mettent ensemble pour en acheter une dans un endroit ce qui fige tout le temps, tu sais, ce serait ouais. malade. Là.
À 10 000$ la table. Ouais,
mais... ben ça part à 5 000. J'ai eu une bonne discussion avec le gars. Dépendamment du bois que tu choisis, si tu veux un cover, si tu veux qu'elle lève ou non, tu sais, les accessoires magnétiques. Il y a moyen de t'en sortir avec un, mettons, entre 5 et 7 000 là, pour une table de base. C'est quand même cher, c'est sûr et certain. Mais c'est quand même un produit incroyable.
Il y a le bois qu'ils utilisent, tout est fait à la main.
C'est bon pour. Tu sais, bon que j'ai des board games, là, c'est aussi très bon pour jouer à ça. Là. C'est pas juste une table
de poker.
De Donjons et Dragons, là, tu peux jouer à plusieurs trucs. Là, mais si tu cherches une belle table, puis qui a des utilités, puis que t'as du budget, là, les tables de Wormwood, c'est fou.
C'est pas une table Ikea, mettons.
Non! Tu vas regarder longtemps.
Si on monte à 5 000 Patreon. Puis on invitera chacun des Patreons.
Enregistrez-vous, les gars. Pour remercier les auditeurs. Mais l'avantage, tu sais, le gros avantage, c'est que ça peut aussi servir comme table à dîner dans la salle, dans la cuisine, en fait. Le cover que tu peux mettre dessus pour tout camoufler, laisser ta game active sous la table. Ça, c'est un procédé qu'ils ont développé. Là. Il y a moyen de rendre ça complètement invisible avec une nappe ou bien des napperons. Mais tu descends le niveau de ta table, tu mets ton cover, c'est super scellé, tu es capable de manger dessus. Le monde finisse de manger, tu relèves le cover, t'as pas touché à tes spellcards, t'as pas touché à tes figurines, tu recommences à jouer. Ceux qui font des games à la maison. J'ai vraiment été impressionné. Là.
Moi, tant que j'ai des enfants à la maison, c'est sûr qu'une table de main me rentrera pas chez nous.
T'as-tu vu des costumes cool aussi, Eric?
J'en ai vu pas mal. Je suis pas un gros fan de cosplay, malheureusement. C'était pas une de mes raisons pour laquelle j'étais là. J'étais vraiment plus pour là pour les jeux de société puis la section RPG. J'ai vu des super beaux Power Rangers. J'ai croisé Nut de Critical Role. C'est une fille du Québec qui faisait son cosplay. Elle faisait Alira aussi. Aliria, excuse-moi, de World of Warcraft. Puis j'ai trouvé une photo sur internet parce que les deux, il y avait une Aliria avant qu'elle se fasse transformer en Undead, puis après, c'est-à-dire. Fait que là, il y avait comme une détonation, c'était vraiment beau. J'ai vu un Transformer. Le gars, il avait un full kit de Transformer, genre Bumblebee, mais il était immense. Là, il devait faire genre 10 pieds d'eau. Fait qu'il était sûrement sur des échasses avec beaucoup de matériel. Il y a des gens qui sont vraiment talentueux. C'est un art, là, vraiment.
Ouais. Partir de quelque chose qui n'est pas réel, puis d'arriver avec quelque chose que tu peux comme tu peux admirer vraiment. Hein. Puis c'est souvent fait avec. Tu sais, c'est l'utilisation des matériaux. Là. Des fois, j'ai regardé beaucoup de vidéos des fois là-dessus, là, parce que ça me fascinait de savoir ben, comment ils font le gun de Gears of Wars. Là, puis t'sais, ça s'achète pas, là, puis là, c'était de voir comment ils construisent ça. Puis,
d'avoir tout... des guides et des forums, il y a des concepts qui reviennent, puis les gens essaient de les améliorer. Là, c'est une grosse communauté, je pense, les cosplayers. C'est une grosse
communauté, puis ils ont bien des techniques pour faire des props. C'est assez fou. Là. Le temps qu'ils mettent, mais le talent aussi, puis l'ingéniosité qui passe dans ces costumes-là, c'est incroyable quand même.
Fait que là, t'as-tu donné ton nom pour DMI l'année prochaine, Eric?
Oui. Malheureusement, oui. Ou heureusement. J'ai demandé au DM organisateur. C'est souvent les gens de l'expédition qui s'en occupent. Okay. Mon nom est donné pour l'année prochaine pour du tiers 1, tiers 2, ou peu importe, la prochaine convention qui aura lieu, si jamais ils ont besoin de DM, que je peux me rendre disponible. J'aimerais ça. Si je l'ai vécu du côté joueur. J'ai eu des bonnes et des mauvaises expériences. Fait que j'aimerais ça apporter peut-être ma contribution, puis essayer d'être un bon DM pour les joueurs qui seront là. De vivre cette expérience-là de ce côté-là, ça m'intéressait. Là.
Cool.
On va être là.
Oh, on n'aura pas le choix d'y aller, là, maintenant que tu es DM.
Vous n'aurez pas le choix, on se fera une table de coups critiques. Sinon, au niveau du plancher RPG, il y avait une section genre de jeux usagés. Il y avait beaucoup de jeux déjà ouverts, de lead RPG. J'ai vu du Vampire, j'ai vu du Five Rings, j'ai vu du D&D 2e édition, Advanced Basic. C'est pas tout qui était en bon état, malheureusement, mais il y avait quand même des petits gems, là, les livres de classe de la 2e édition. J'avais quand même pas mal de stock. Il y avait un stand, si on va plus du côté jeu de société, il y avait un jeu en démo qui s'appelait Draftosaurus. Donc, c'est un genre de jeu, mais draft, c'est un repêchage. Fait que chaque joueur a genre une petite carte, c'est un zoo de dinosaures, si on veut, avec des jetons en bois. Chaque jeton en bois représente une couleur et une race de dinosaures. Le but, c'est de les placer sur ta carte, mais avec un draft. Donc, tu en as 6 dans ta main. Tu en choisis un, tu passes les 5 à ta droite, tu te fais passer celui à 4 à ta gauche. Fait que tu as une main différente. Là, il faut que tu fasses soit des coupes, des dinosaures différents, faut que tu aies le king du zoo. Faut que tu en aies le plus possible dans le même enclos. Puis, il y a un système de dés aussi qui t'empêche de placer tes dinosaures à certains endroits sur ta carte. Mais c'est hyper rapide, mais j'ai adoré le concept. C'est un petit jeu à 20$, puis le stand était plein. Là. J'ai joué une demi-partie, là, c'est deux rounds, mais j'ai fait un round pour essayer de comprendre comment ça marchait. Mais c'est sûr que c'est un jeu qui va rentrer chez nous, ça, parce que c'est le genre de jeu que ma copine aime, puis que sa fille aimerait aussi. Là. C'est un easy game comme on aime, un petit soir tranquille avec des amis, puis une bouteille de vin. Ça fit parfaitement dans.
Interesting.
Moi, j'ai vu la boîte puis le artwork passer, puis ça avait l'air vraiment bien fait puis bien conçu. Puis visuellement, c'était intéressant, puis c'était ludique aussi. Là, c'est ça qui est le fun. Là, c'était BD, c'est mais
super
pas
bonne
trop.
Qualité, les jetons de bois sont de super bonne qualité. La tuile de jeu était épaisse. C'est pas un petit carton cheap. Là, fait que c'est des bonnes pièces de qualité. Fait que pour un 20-25$, je trouvais que ça valait la peine. Genre de jeu que tu peux jouer sur l'heure du lunch. Au bureau, là. Vous savez, on a une bibliothèque ludique là, à ma job, et qu'on joue à plein de jeux sur l'heure du lunch. C'est un ce genre de jeu qui fitterait dans notre collection.
Tu peux jouer vite, là, tu sais.
Oui, exact. T'sais. Pendant que tu manges, t'es pas trop besoin d'être concentré, tu fais tes trucs, puis tu joues une game en même temps, c'est toujours plaisant.
Je suis déjà en train d'écrire à Yann pour le commander, je pense.
Pour vrai. Ah, avant que j'oublie, une des dernières choses que j'ai vues qui était intéressante, le jeu de rôle. Je ne sais pas si c'est nouveau ou pas, il y avait une table avec ce genre de jeu-là, mais c'était le jeu de rôle dont vous êtes le héros.
Oh, okay.
C'est un player's book, dans le fond, qui était de Loup Solitaire. Dans le fond, c'est un core book, Loup Solitaire, avec c'est un RPG dans le monde des livres dont vous êtes le héros, dans le fond. Il était genre 5$. J'aurais dû l'acheter. Je ne l'ai pas acheté, malheureusement. Mais je trouvais ça cool comme concept. C'était les mêmes logos, les mêmes images et tout.
Est-ce que c'est un jeu qui joue tout seul encore? C'est tu te joues ton
role-play? C'est un RPG, là. C'est un DM avec...
OK.
C'est des vieux, vieux livres.
Ce qui a rendu là, c'est supposé avoir fait des amis. Fait ouais.
Bon, le prochain step dans votre vie sociale. Après avoir vaincu le donjon du magicien, dans votre sous-sol. overall, c'était une belle expérience. L'année prochaine, je risque d'y retourner avec. Je vais essayer de retourner avec la fille à ma copine qui adore tout ce qui est animé japonais puis ce genre de trucs-là.
De ramener au Otakucon en novembre?
Oui, non, c'est au mois d'août.
C'est
ça. Je dis ça comme ça aussi.
Cette année, en octobre, Comic-Con, mais à Laval. Il est supposé avoir un Comic-Con à Laval fait par les mêmes organisateurs que le Montreal Comic-Con.
Really?
Ouais.
Ça pourrait être cool. On est pas mal tous à Rive-Nord.
Ben oui. Ben, s'il y en a d'autres qui nous écoutent sur sa rive nord, Mike, ouais. Non, moi je suis pas dans la clique.
Ben, venez nous voir si on va le dire en podcast, mais on va essayer d'être là ce soir.
On va s'informer, on va essayer d'être là en gang, cool, puis vous viendrez nous dire un beau salut. Puis sur ça, écoute, merci Eric pour ton résumé. C'est super cool.
Pas de problème.
Vous aimez ce que vous entendez? Visitez coupcritique.ca. un site web consacré uniquement aux jeux de rôle. Nous créons des articles sur les nouveautés et des critiques sur différents produits consacrés aux jeux de rôle. Pour nous aider à pousser le podcast et nos capsules de vidéos plus loin, visitez le Patreon de Coup Critique à patreon.com/coupcritique.
Deuxième volet de l'émission, on va parler des items magiques, mais justement, je vais vous faire un lien boiteux, les gars. J'ai reçu un item magique par la malle cette semaine. C'est la créatrice Alexis qui est entrée en contact avec moi de Peculiar P Designs sur Etsy. Je vous en parle parce que ce qu'elle fait, c'est quelque chose que j'ai pas vu nulle part sur Etsy. Je cherchais beaucoup des créateurs du Canada qui créent des choses pour toutes les fans de jeux de rôle. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dessine des maps de monde fantastique. Et ce que j'ai reçu, en fait, c'est une map de Ferune. Là, les gars, je leur ai envoyé le lien tout récemment pour qu'ils voient de quoi ça a l'air. Je vais mettre une image sur les réseaux sociaux puis dans l'article du podcast pour voir sa boutique. Vraiment, c'est vraiment beau. Là. C'est dessiné à la main. Il y a plusieurs options de commander soit sur papier blanc ou papier plus côté ancien, là, ambré brun. Là, tu sais, là. Mais c'est vraiment cool. Elle a dessiné, en fait, le Sword Coast, la côte de l'épée, comme on dit dans la version francophone.
La côte des épées.
Excusez-moi, la côte des épées. Et dans le fond, on peut voir, elle a mis plusieurs villes, plusieurs sections, régions de. En fait, c'est une région de Ferune, dans le fond, qu'elle a dessinée. Mais c'est vraiment impressionnant le travail qu'elle a dedans. Et c'est vraiment un beau cadeau, genre, à offrir à quelqu'un qui traite vraiment là-dessus. C'est facile à être. On peut l'acheter avec le card, je crois, aussi. T'sais, ça peut tout venir prêt à être affiché. Puis c'est fun parce qu'on peut s'en servir aussi en partie. Là. Tu sais, si, mettons, je sors cette map-là pour une quête qui se passe justement sur la côte des épées, mais là, c'est doublement intéressant pour les joueurs. Donc, je vous conseille fortement de découvrir cet artiste-là puis son travail. C'est vraiment, vraiment beau. Vraiment. Donc, c'est ça. On va commencer avec les items magiques. Je voulais qu'on aborde une petite discussion là-dessus parce que pourquoi l'idée m'est venue de mon bord, c'est que dans Adventures League, il y a à chaque fin de quête, en fait, on a la chance de pouvoir déloquer, pas tout le temps, mais la plupart du temps, un item magique dans le fond, dans une table. Puis j'avais la réflexion à me demander si à chaque fois qu'on déloque un item magique, est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui sont plus ou moins inutiles? Est-ce que ça fait vraiment un avantage ou un désavantage à un personnage? Puis là, maintenant qu'on est quatre joueurs puis que j'ai trois experts avec moi, je me suis dit, on va engager cette conversation-là là-dessus. Les gars, peut-être Mike, toi en premier, c'est quoi ton avis là-dessus, un peu, les items magiques?
Ben, c'est certainement que y a des systèmes magiques qui sont pas égaux à d'autres. Il y en a qui sont plus utiles que d'autres, il y en a qui sont plus forts que d'autres. Est-ce que ça généralement fait en sorte que ça donne un gros edge à ton personnage? Normalement, c'est des affaires que tu vas être capable de faire aussi par toi-même. Fait que c'est rare les objets magiques qui vont donner quelque chose que ton personnage sait pas faire déjà ou qui n'a pas accès d'une façon ou d'une autre à faire. Certains vont te donner des pouvoirs de plus, mais pour moi, c'est jamais les objets magiques qui make or break un personnage. Là. Les features de la classe vraiment l'emportent dessus, mais oui, il y a des objets magiques qui sont qui te donnent un edge en combat là, pour chaque classe là, qui est le fun à avoir en tant que joueur, en tant que personnage, c'est certain. Là. Ça fait partie de Donjons et Dragons, je pense, à la base là, de un peu le ben, faire des guides. Des objets magiques, c'est un peu ça va un peu avec le jeu, mais ouais, effectivement.
C'est sûr que moi je pense quand même qu'il y a des items qui sont spécifiques à certaines classes, on s'entend. Les
ah oui.
Items qui sont bons pour tout le monde, tout ça que des fois, Francis, tu parles de débarrer un item. Il y a des items que j'ai débarré avec mon barbare, que une flûte de pain, là, ça changera pas grand chose avec mon barbare.
clairement, t'es pas le target audience.
aussi puissante que puisse être. Fait que c'est sûr que ça, à ce moment-là, c'est vraiment d'évaluer si ça vaut la peine de dépenser les points de trésor. Puis à d'autres niveaux, ben, même dans une campagne comme la mienne, je suis assez généreux dans les items magiques avec mes joueurs. Puis à ce moment-là, c'est de voir eux comment ils l'utilisent. C'est ce que j'aime, les items magiques, mes préférés, c'est sûr que c'est pas nécessairement pour faire tout le temps la même chose. Puis qui va l'utiliser et de quelle façon. C'est la créativité que tu peux apporter même si tu donnes un item magique comme ça.
Moi, de mon côté, je suis un gros fan des petits utility, des utility items. Oui, c'est le fun d'avoir, c'est une grosse robe de mage, une grosse arme qui frappe fort avec des effets supplémentaires. Mais souvent, c'est des petits items, on va sûrement vous en parler, mais des petits items qui ont des utilités vraiment spécifiques, mais qu'avec un petit peu d'imagination, tu es capable de t'en servir dans d'autres situations, pas juste en combat. Puis ça fait en sorte que, non seulement du côté roleplay, mais pour le fun de la game en général, ça rajoute une saveur supplémentaire. Là. Pour moi, les systèmes que j'aime le plus.
Ouais. Mais tu vois, moi, ça fait un bout de temps là, que je joue en Ventures League. J'ai plusieurs personnages que j'ai. Puis j'ai pas encore accumulé assez de TP pour, ou de treasure points, en fait, pour me débarrasser un item magique que je veux vraiment en ce moment, c'est ça. Mais je me rends compte qu'en même temps, je vois pas. Je manque pas tant de choses. Puis je vois que mon personnage va peut-être grandir puis s'améliorer avec les prochains niveaux. Donc ça me stresse moins. Mais il y a des items que récemment, j'avais créé un concept de personnage. Je vous donne un exemple, par exemple. J'ai créé un concept de personnage et je me suis dit, ah, l'item qui fit le plus avec, c'est un bag of holding. Comme le bag of holding, c'est un classique, là. C'est le sac qui permet de mettre pas mal n'importe quoi dedans puis de le garder dans une espèce de haute dimension, là, tu sais, de parallèle. Puis j'avais créé un Air Genesis. Puis je m'étais dit, lui, mettons un short rest, là, il dit aux autres, hey, mettez-moi dans la poche, moi, je vais prendre un break, marcher toute la run, puis je vais prendre mon short rest parce qu'il n'y a pas besoin de respirer. Il dit,
tu penses à ces affaires-là, tu
sais. Ben, je sais pas, mais j'ai fait comme, ah, tu sais, c'est evergreen.
Techniquement, je pense que tu peux.
Oui, c'est ça. C'est, ben oui, techniquement, il retient pas son souffle.
De l'inspirer, t'es correct, là. Tu peux rester dans le. Tu peux rester
dans le... je peux rester 10 jours si je veux. J'ai pas besoin de respirer. Fait que, OK, le boss s'en vient, mettez-moi dans le sac, gang. Puis vous me réveillerez quand ça sera fini. Ouais. Mais je trouve ça vraiment drôle. Comme...
tu fais avec un de tes chums qui joue un gros barbare, genre, puis de temps en temps, il arrache un sac à terre, puis c'est toi qui sors.
le problème qu'occasionne avec ton affaire, Francis, c'est que là, tu donnes des idées aux joueurs, puis là, ils vont arriver devant nous, puis ils vont faire ces choses-là. C'est pas bon, c'est comme influence.
La faute, tu peux avoir des belles affaires.
Mais c'est pas, mais c'est, je trouve ça intéressant de penser à des items magiques que tu peux utiliser de façon différente. Là, c'est sûr qu'on va pouvoir mettre tout le trésor dans un bag of holding, mais un truc le fun. Le seul bémol à cette tactique-là, c'est qu'il faut que quelqu'un veuille me sortir après du sac.
Tu te ramasses comme Ant-Man puis tu restes pogné dans la vanne parce que quelqu'un s'est tapé ses doigts.
Je suis comme dans le Quantum Realm.
Plus avancé.
L'autre bémol, c'est que tu feras pas grand-chose de tes games.
Non, c'est ouais. Ça. Ben, c'est, je pense que ça fait peut-être du homebrewing ou quelque chose de même. Là,
si on revient à Adventures League, le gros jump des items magiques, c'est vraiment qu'éventuellement, les monstres, ça prend un item magique pour leur faire des dégâts, surtout en melee ou en range. Si tu fais pas de la magie, on parle d'un fighter, un barbare ou un rogue ou Donc, je pense que c'est là le gros jump qui est quand même relativement important. Puis on a vu un de nos collègues, là, justement, pas avoir d'arc magique pendant un certain temps. Mm-hmm. Puis il était pas très efficace. Puis on en riait même, puis c'est correct, là, c'est drôle. Donc, c'est, ça, je pense que tu disais que ça changera pas tout parce que les capacités de ton personnage vont être beaucoup mieux que n'importe quel item. Mais ça prend ça à m'amener pareil.
Ouais, mais le Ranger, par ça, de nouveau, c'est, je pense que ses flèches sont magiques, là.
Ouais, il peut faire ça aussi.
Fait que...
Dépendamment du Ranger, là.
Ouais. C'est ce que je dis. Avant niveau 5, pas taper magique, c'est pas full grave, là.
Non, exactement, je suis d'accord. Mais un peu plus loin, là, nous, on est rendu dans...
Ben, me semble, en tout cas, de mémoire, le Ranger, ils ont une façon de taper magique à partir du niveau 6, là.
C'est pas
comme
toutes les...
à peu près toutes les classes, là.
Ben, tu sais, il y a une raison pour laquelle les armes plus 1, 2, 3 sont evergreen aussi, là.
Oh, oui, absolument.
La game est designée pour que ce soit le cas. Puis c'est souvent quand t'es un combattant en corps à corps, un archer ou bien quelqu'un qui n'a pas de magie sur lui, c'est souvent ton premier achat là, avec tes treasure points.
Ben, ça te simplifie la tâche de faire de quoi en conséquence de taper magique. Tu n'as plus besoin de te le demander, mais en tant que tel, les classes ont toutes une façon, si je ne me trompe pas, de taper magique ou à peu près niveau 6 ou max 7. Faut pas paniquer si vous êtes niveau 7 et vous n'avez pas d'un objet plus 1, c'est pas grave.
Ouais.
Mais c'est toujours utile.
Veux-tu expliquer pour nos auditeurs que ça peut-être pas c'est quoi, parce que je l'ai appris même moi tout dernièrement, c'est quoi Evergreen, ou je sais pas s'il y a un mot français.
Ben, Evergreen, c'est toujours vert. C'est un fertilisant.
D'accord.
Non, blague à part, c'est qu'il y a toujours des items dans Adventurers League qui sont débarrés. T'as les items qui sont Evergreen. Peut-être les items qui sont seasonal. Je pense qu'on l'avait déjà, mentionné, mais je peux le répéter.
Oh oui.
Dans le fond, les items Evergreen, c'est que ces items-là sont toujours, toujours, toujours disponibles pour être achetés avec n'importe quel de vos personnages si vous avez les treasure points nécessaires. Il y a du stock tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Quand même des items intéressants. Donc, tu sais, les shields plus 1, plus 2, plus 3, les armes plus 1, plus 2, plus 3. Certains systèmes utility aussi, comme les bag of holding, c'est evergreen. Les systèmes un petit peu plus forts aussi. Présentement, il y a la cloak of visibility, je crois, qui est pour les tiers 3, tiers 4. Donc ça, c'est pour les evergreen. Ces systèmes-là vont toujours rester débarrés, peu importe la saison, à moins que Wizard...
change la liste des evergreen, là.
Exact. Mais on s'entend plus à ce que la liste des la liste des seasonal items change avec les saisons, parce que ça, le nom le mentionne. Mais selon moi, les evergreen sont là pour rester.
Donc au moins, quelqu'un peut débarrer un système-là sans problème, sans avoir nécessairement en fait une aventure qui est propice à sa
classe. Ah, exact. Je pense que c'est quoi, c'est des tiers 1, fait que je pense que c'est quoi, 8 AP pour 8 AP?
Ouais, 16 AP pour un autre plus 1.
16, fait que si t'as joué 4 games, t'as assez d'AP en général. Fait que si t'es rendu niveau 5, t'es capable d'en acheter une.
Ouais. Fait que c'est assez... ça permet d'avoir un item magique quand tu rentres tier 2. Là.
Toi, Eric, t'as-tu un item magique que t'as plus près de ton cœur? Y a-tu quelque chose... Qui fait toujours ton bonheur?
Oui, ben écoute, il y en a plein. Il y en a plein, mais un que j'ai découvert dernièrement, puis tu sais, c'est pas un game breaker, c'est pas rien d'extraordinaire, mais c'est un système que j'aime beaucoup utiliser. Surtout quand t'as pas accès à la magie ou que t'as un groupe qui est pas super. Qui a pas beaucoup de perception, puis c'est un peu difficile, mettons, de t'orienter puis de trouver des trucs. C'est le Lantern of Revealing, qui est une lanterne qui permet de voir à travers l'invisibilité, de trouver des portes secrètes aussi dans le milieu d'une pièce. Donc, c'est une lampe à l'huile que tu peux transporter avec toi. Tu n'as pas besoin d'attunement, donc ça ne prend pas une de tes slots d'attunement, une de tes trois slots. Mais c'est un item que, écoute, même la Mac, là, tu parles de ton barbare là, qui regarde à gauche, puis même si c'est à droite, là, un exemple, il serait capable d'avoir, mettons, sa lanterne d'accrocher à sa belt, puis s'il voit qu'il faut qu'il cherche quelque part dans une pièce, bien, il a drop à terre, il donne le command word, il y a une illumination qui se passe, puis là, t'es capable de voir si c'est des créatures qui sont invisibles, si t'es capable de voir si c'est des passages secrets, ou des genres de trucs, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est un item que j'ai découvert, que j'aime beaucoup.
Très pratique, effectivement.
Très utile, indeed.
Moi, mes items préférés, c'est vraiment... un peu fixé sur mon barbare qui vient toujours d'avoir une Belt of Hill Giant Strength, qui est une ceinture de géants des collines. Donc, ces belts-là sont plus faites pour ceux qui ont besoin de force dans leurs attaques, tout ça, mais j'adore ce que tu peux amener comme texture avec tout ça, là, puis les
Hill Giant, c'est 19 ou 20?
21.
What?
Donc, tu peux avoir 21, 23, 25, 27 ou 29 de force, ce qui donne pas mal de plus, pas mal de dégâts, puis tout ça. Donc, c'est sûr que c'est plus fait pour les fighters, les barbares, tout ça, mais je trouve vraiment que c'est un item qui est intéressant, même dans une campagne homebrew, que tu peux amener ça. J'ai déjà vu des mages qui avaient beaucoup de force pendant quelques secondes, puis c'était super drôle, tout ça, tu sais, donc...
c'est sur un wizard, my God!
Je te lance, je te lève dans les airs, puis je te...
Il y a un wizard, un ami à nous, Sébastien, qui est un wizard, comment on appelle ça, brawler, un peu. Puis c'est vraiment intéressant. Donc, c'est le genre d'item qui pourrait être totalement fantastique pour lui aussi quand
ouais,
même.
Effectivement.
Oui, il y a le feat Tavern Brawler, je pense. Ou,
ouais, exact.
Ouais. C'est un wizard Tavern Brawler.
Ouais, ouais, c'est malin.
Je pense qu'il joue plus parce que c'était pas très bon.
Oh shit.
Mais moi, je trouve ça drôle à chaque fois. Il dit, y a-tu un morceau de planche qui traîne à terre que je peux prendre pour me battre avec? Là, il prenait toujours une patente et il fessait dans le tas. C'était drôle.
C'est drôle, mais ces persos-là, tu sais, un coup que la joke est finie. C'est plus drôle.
Tu regrettes.
T'as des regrets.
Oups, je peux pas utiliser une arme conventionnelle.
Si tu profites pas de ton niveau 4 pour rebuild, puis de faire de quoi de plus sérieux à ton tier 2, là, t'es fait. Là.
Ou dans un homebrew, le DM doit se dire, écoute, pensez deux jours, là, reviens-moi avec une meilleure idée. Parce que tu sais qu'après 3 jours, ça va être tanné.
T'es juste le doute qui déraille tout le temps. Là.
Y a-tu des vidanges qui traînent à terre que je les ramasse pour me battre? Tout le long du homebrew. Ah.
C'est sûr que c'est le même gars-là, man.
Si on reste sur le sujet des items magiques, un autre que j'aime, que j'ai jamais eu la chance d'utiliser, mais il est sur ma wishlist pour pas mal tous mes personnages, c'est Dairn's Instant Fortress. Une forteresse instantanée. Dans le fond, c'est un cube d'un pouce de métal que tu lances au sol, tu donnes un mot magique, c'est toujours c'est une action, un mot magique pour activer l'item. C'est une forteresse qui pousse de là, donc 20 pieds de diamètre, 20 pieds de chaque côté, 30 pieds de haut, avec des flèches pour te protéger de chaque côté. Ça fait quand même du dégât en plus. Donc quand tu la lances au sol puis tu dis le common word, si quelqu'un se trouve dans son range-là, c'est 10 des 10 de dégâts.
Une maison
qui te pousse dessus. Puis c'est quand même un DC15 de Dex. Là, fait que Dex, c'est comme la master stat. Là, fait qu'il y a beaucoup de gens qui seraient en mesure de l'utiliser et de le réussir. Mais c'est quand même la moitié de 10 des 10. On s'entend-tu que ça peut être, mettons, un 25-30 de dégâts assez facilement, même quand tu le fails. Puis la forteresse, ben, ça te permet de faire tes rests au milieu de nulle part, en étant protégé, d'avoir un bon tour de garde. C'est un item vraiment cool. Là.
Pour ceux qui trippent, genre, ils ont un petit fantasme escargot, c'est malade, tu sais, tu transportes ta main.
Effectivement. C'est un petit cube. Ça, c'est un folding boat, mais t'es nickel.
Un item qu'on parle pas de Game Breaker, mais qui peut bien affecter négativement, effectivement, c'est vraiment le deck of meetings, qui est quand même assez populaire, puis qui est intéressant, puis tu piges une carte, puis il arrive quelque chose soit extraordinaire ou complètement...
Fuyez, pauvre fou.
Souvent, les gens disent de pas mettre ça dans une campagne, quoi que ce soit, parce que ça va juste tout
dérailler.
Mais c'est quand
si
même...
tu parles de quoi de random, ça peut être fucking... Ça peut être vraiment drôle, là, mais...
Il y a un suspense à travers ça aussi, fait que c'est intéressant, là. Ouais, Critical Role aussi, avec le barbare qui avait ça. Puis ça a donné des résultats assez rocambolesques.
Je vous ai pas dit ça, mais j'ai le paquet du deck of many things qui a été utilisé dans Critical Role. Le gars qui l'a dessiné me l'a envoyé. En tout cas, on en parlera une autre fois. Mais c'est fou comment les gens... Les objets magiques aussi, ça a toujours interpellé beaucoup de gens à créer aussi, là, puis à créer du contenu pour en avoir de plus en plus, puis des variantes, puis tout ça. Puis c'est ça qu'on retrouve beaucoup en homebrewing, là, quand tu fouilles un peu. Là, c'est... Moi, j'en ai créé un sur D&D Beyond. Il y a du monde qui l'ont ajouté, puis je trouve ça cool. J'avais créé un Necklace of Voices. Ça demande un attunement. C'est que le lore, c'était que une guilde de voleurs de Waterdeep avait créé avait commissionné des wizards, dans le fond, pour créer un bracelet que quand ils se mettent autour du cou, ça imite la voix de n'importe qui, dans le fond, qu'ils veulent. Ça ne change pas la langue, mais ça te permet d'imiter n'importe quelle voix. T'sais, c'est plus pour le role-playing. Puis j'avais mis comme savoir que c'est un Kenku, mais le collier, il peut parler finalement en commun, avec une voix qui reflète sa personnalité. T'sais. Mais c'est pour arrêter de faire puis de répéter n'importe quoi. Là. Mais tu sais, ça, c'est un truc que j'ai fait. C'est super inspirant. Parce que, justement, des petits items qui disent pas « Ouais, tu fais comme 40 des 10 de dommages. » Puis t'es comme t'sais, « OK, ouais, mais ça, tu vas avoir ça quoi, niveau 19, niveau 20. » Tu sais, t'es pas...
Ouais, moi, j'aime ça, les affaires qui font boom.
Ouais, j'ai créé plusieurs items de ma campagne, mais ceux qui sont le plus intéressants puis que mes joueurs ont toujours pas tout peaufiné, c'est ceux qui évoluent dans le temps. Donc, j'ai appelé ça Exalted puis Awakened. C'est un peu des anglicismes. Donc, réveillé puis exalté. Les items, éventuellement, ils deviennent plus forts, le même item. Donc, ça permet de pas
forcément... J'ai vu des systèmes dans ce sens-là sur DM's Guild, me semble. Des objets magiques qui évoluent avec le personnage. Que c'est un concept intéressant, c'est quand même, quand tu veux intégrer des items, tu sais, des family heirlooms, tu sais, l'épée que ton père t'a donnée, tu sais, puis tu commences à l'utiliser, puis c'est pas magique. Là,
elle se développe.
Hein. De level, elle se développe, elle gagne des pouvoirs genre ancestraux qui sont appropriés à ta thématique, c'est vraiment cool.
Surtout quand t'es attaché à un item, c'est plate de dire, ah, j'avais une super arme plus un vraiment cool de mon père, mais là, je trouve... Ouais. Fait que... c'est ça.
Fait que fuck mon père.
Rick en avait une, en fait. C'était des épaulières qui permettaient un avantage sur un jet d'intimidation. Il y avait de la brume qui se créait. Puis éventuellement, au fur et à mesure qu'il aurait réussi des jets d'intimidation, pardon, ça aurait évolué. Il est plus dans ma campagne pour l'instant. Mais c'est le genre d'affaires comme ça. Là. Donc, ça amène une certaine texture, puis ça permet aux gens de garder leurs items puis de les aimer.
Ouais, ouais. Toi, Mike, est-ce des items qui t'intéressent plus?
Moi aussi, j'aime bien les items qui font des trucs. T'sais. Effectivement, comme Giovanni disait, le bag of holding, c'est toujours utile. Mais un que on sous-estime beaucoup, là, que je peux parler, c'est le immovable rod. Qui est un bâton, je pense que t'as même pas besoin d'un tattoo en plus pour l'avoir.
Non,
puis,
c'est une nature.
Quand tu cliques le bouton, le bâton reste là où t'as cliqué, peu importe ce qui arrive. Je pense qu'il y a des dispel magic niveau genre 6 ou 7 qui peuvent le dispeller, puis c'est pas mal ça. Sinon, il est pogné là, puis il va carrément flotter dans les airs exactement où tu l'as mis, puis tu peux l'utiliser à tellement de façons que ça en est presque déplaisant. Tu peux bloquer des portes qui sont en train de fermer sur toi, tu peux le mettre dans les airs, puis l'utiliser pour grimper à des endroits, tu peux t'en servir pour faire des pièges, bref, il y a un paquet d'utilités à cet système-là que les gens ont tendance à faire « Ah, c'est pas super utile, non, c'est vraiment malade. »
Tant qu'un dragon s'en vient par toi, la clique, puis il passe dedans, ça doit faire une coupe de dégâts.
Tu pourrais improviser des dégâts comme quoi ça y fait un impact, puis il est pas capable de, s'il l'a pas vu, du moins, il est pas capable de passer vraiment, là, dépendant de la grosseur du dragon. Tout. Ouais. Mais tu peux faire des trucs comme dans ce genre-là, justement, utiliser pour faire des barrières qui sont vraiment plus solides qu'elle a l'air en réalité. Là,
ça peut supporter jusqu'à 8000 livres, la créature peut utiliser une action pour faire un strength check de DC 30 pour la bouger de 10 pieds seulement.
C'est ça.
Mais je crois que dans Critical Role, ils s'en sont servis. Il y avait un gars de poignet dans le dragon, puis il a ouvert son immovable rod dans son estomac, quelque chose de même. C'est tellement cool.
C'est Dimension Door dans l'estomac du dragon. Il a activé la rod, puis ils ont essayé de ressortir. Ça n'a pas été passé nécessairement. Fait que le dragon mangeait des dégâts s'il se déplaçait, puis tout ça.
Bah, il est locked down, là. Faut qu'il. Ah, merde. C'est très bon.
Parce que sinon, vous avez des anecdotes d'items qui ont été utilisés qui c'était drôle ou.
J'en ai une. Giovanni, peut-être que tu vas t'en souvenir, mais on était avec Kevin. Puis c'est une des aventures de CA2 que j'avais fait. Les aventuriers s'étaient ramassés dans une, une petite boutique. C'est pas un item magique, là, c'est un item qu'on peut trouver un peu n'importe où, mais c'est quand même drôle. Hein, fait que je vais le compter. Donc, les aventuriers se ramassaient dans une petite boutique où la propriétaire de la boutique vendait des clockwork items, donc des petits systèmes à mécanisme qu'on pouvait craquer, puis qui partaient, puis ils faisaient un paquet de trucs. Mais elle vendait aussi des boîtes en aluminium, des tin cans avec. C'était une pièce d'or, puis il y avait 10 objets. 10 reliques ou 10 petites breloques qu'on peut rouler sur une table. Puis un de nos joueurs, Kevin, il est en plein de conversation. Il en a acheté deux. Puis à chaque fois qu'il avait l'occasion durant la partie, pendant une occasion, il disait, pendant la situation, il roulait son dé, puis il sortait l'item aléatoire, genre, qui venait se faire donner. Pendant une des conversations roleplay, il est en train d'essayer de convaincre un NPC de l'écouter ou de le suivre. Puis finalement, ça avait marché. Puis il dit, hey, pour te remercier de ta collaboration, je te présente un. Puis il roule un dé. Il s'en va voir dans le livre des joueurs. Puis il part à rire, genre, comme il n'a jamais ri. Kevin ne rit jamais, en fait. Là, il était vraiment crampé. Puis il dit, je vous présente ce magnifique bossal. il remet un bossal. Dans ma tête, ouais, dans ma tête, ça a fait comme « Dobby est libre! » Comme Harry Potter. Il venait de donner un bas.
C'est tout le long, vraiment. Il sortait des items, puis on était comme...
Ça n'avait aucun rapport, tu sais, mais c'était tellement drôle, puis c'était bien placé. C'est probablement un des moments les plus drôles de
wow. Dobby depuis que je dis.
Dobby is free now.
Je vous donne un bossal. Ouais. C'était vraiment drôle. Fait que c'était un highlight, là.
Wow. Ça, c'était avant ou après la madame qui vendait des zombies?
Ah, c'était après ça. Madame.
J'espère qu'il joue un Wild Magic Sorcerer ou quelque chose du genre. Ça serait trop épique, là.
Non, il joue... c'est quoi qu'il jouait? Il jouait un Warlock.
Ah, ça, c'est pas fait quand même.
Ouais, non, c'était vraiment très, très drôle.
C'est bossal.
C'est quoi les odds, même, que tu roules ça sur la table?
Pas juste un bas sale.
Non, c'était parfait. C'est juste parfait.
Sinon, vous, comme DM, là, quand c'est temps de donner des items magiques, comment vous procédez? Où vous prenez votre inspiration, votre choix? C'est comment vous approchez ça?
Ben, homebrew,
là? Oui, homebrew, parce qu'en Adventures League, tu peux. Ouais.
Homebrew, là, j'en donne pas tant, parce que je veux pas que ça devienne le focus, à moins que ce soit l'idée que c'est de faire une quête avec. Fait que j'ai pas... Tu sais, je leur donne des trucs que je sais qu'ils vont être utiles à leur personnage, mais je vais jamais être... comme, OK, toi, tu joues un paladin, je vais te donner un Holy Avenger plus 5. Non, ça arrivera pas demain, mais je vais peut-être en faire des quests, en fait, plus que...
Ouais.
Aller chercher l'ancienne relique, puis là, tu acquiers cet objet magique-là que t'as entendu. En gros, j'ai tendance à plus laisser les joueurs un peu me guider sur ce qu'ils veulent, je te dirais. Ah, moi, je fais des recherches pour tel genre de truc, puis là, ben, je vais trouver un objet magique qui fit la description ou que je pense qu'il va fitter, puis je leur envoie comme quest plus. Là, j'ai tendance à plus improviser quand je suis en blue là, pour les quests. Je m'inspire de ce que les joueurs veulent faire. Là. À moins que j'ai vraiment une idée de quête, là, mais je m'en sers comme ça plus les objets magiques pour ma part.
Ouais. Ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'il y a un sentiment de fierté aussi quand ils l'ont, finalement.
Parce ouais, c'est ça, tu sais, ils sont contents qu'ils
l'ont gagné. Il y a eu un combat, il y a eu une aventure, il y a eu quelque chose.
C'est un peu chacun son tour aussi, tu sais, de faire sa petite quest et d'impliquer les autres là-dedans. C'est toujours le fun. C'est bon, tu sais, il ne faut pas que tu passes trop de temps là-dessus, mais ça tisse des liens entre les joueurs et les personnages. Ça fait des belles sessions après.
Ouais, autant que je suis d'accord avec Mike au niveau de qu'est-ce que ça peut apporter un item magique, mais moi j'ai été quand même pas mal généreux. Tout le monde commençait avec un item un peu heirloom là, de leur background, tout ça quand j'ai fait ma homebrew. Puis j'en donne quand même beaucoup, sauf que mon but étant que ça devient puissant et fort, oui, mais que c'est pas ça qui est important dans ma campagne, mais bien de l'histoire et le narratif. Donc c'est l'approche que j'ai optée. Ça se peut que dans une autre campagne homebrew, j'irais avec beaucoup plus de rareté peut-être, ça ferait différent. Puis ça
non, mais ça aussi c'est super intéressant en fait, là. Tu donnes un objet à chaque joueur qui va évoluer avec lui. Moi, je trouve ça vraiment nice comme concept de campagne. En fait, c'est quelque chose que je ferais. Je l'ai juste jamais fait de même, mais c'est super intéressant. En fait.
C'est exactement. Mais en même temps, les items magiques sont plus florissants dans le monde que j'ai créé parce qu'il y en a beaucoup. Ça s'achète. Ils sont dans une ville présentement. Puis il y a un magasin d'objets magiques là, d'une espèce d'ensorceleuse qui est super puissante, qui crée ces items magiques-là. Donc, j'ai trouvé ça intéressant d'amener ça comme ça. Donc, c'est plus fréquent. Mais dans d'autres mondes, dans une future game à moi ou dans le tienne ou quoi que ce soit, ça peut être quelque chose de très rare, très puissant, puis qui c'est tellement difficile à trouver que justement, tu crées des quests pour ça. Tandis que moi, c'est plus une approche un peu différente. Mais en même temps, ça enlève pas que ça peut être intéressant. Ce que j'aime faire, par exemple, vas-y, Mike.
Non, je veux dire, moi j'ai un peu le syndrome de Greyhawk là, dans le sens que j'aime quand même pas ce multivers là, puis c'est pas c'est très low magic en fait là.
Exact.
Pendant le temps que tu joues, tu joues Aberon, c'est high magic, les objets magiques là, il y en plus.
Les quelques raisons pourquoi j'ai fait ça, d'abord, c'est que j'avais beaucoup de joueurs qui commençaient à jouer à D&D, donc je voulais leur donner du bonbon pour intéresser à ces choses-là. Mais l'autre affaire que j'aime faire, c'est des fois ils vont. Je suis d'accord avec toi qu'on va pas donner parce que j'ai un fighter, je vais donner une arme de fighter. Des fois, ils vont trouver des armes, comme j'ai pas d'archer, puis ils vont trouver un arc. Ça sert pas à grand chose pour personne. Mais je trouve ça intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Est-ce qu'ils vont la vendre juste pour l'argent, merci, bonsoir, ou est-ce qu'ils vont essayer de développer des skills à ce niveau-là, tu sais?
La vie d'en haut, ils vont créer ça.
Ben, je te dirais qu'ils m'ont agréablement surpris des fois, puis d'autres fois, ils l'ont pas pris, puis j'étais comme, c'est vraiment. Bizarre, tu sais. Fait que c'est drôle, mais ça amène justement un choix. Tu leur mets un choix sur eux à décider est-ce qu'ils l'utilisent, est-ce qu'ils le vendent, est-ce qu'ils le donnent à quelqu'un. J'avais un petit NPC, ils ont donné une coupe d'armes à Mané et tout ça. Tu sais, ça peut être vraiment intéressant de voir à ce niveau-là comment ils vont procéder, car c'est pas une arme qui est pratique, qui est OP ou qui est nécessaire pour eux.
Ouais, c'est intéressant.
Toi, Eric, je sais que. Dans le fond, tu DM beaucoup de Adventures League, principalement. Donc, le choix des systèmes magiques ne te revient pas vraiment, en quelque part. Mais comment tu vois ça, toi, l'obtention de ça, là, ben, de DM à joueur?
Moi, j'irais peut-être dans l'effet de surprise aussi. Oui, de donner des systèmes qui sont utiles à chaque personne, mais des systèmes qui sont peut-être moins utilisés en général, les systèmes qui sont moins vus, peut-être parce qu'ils sont considérés moins bons, peut-être parce qu'ils sont considérés moins intéressants, moins de saveur et tout. Mais je pense que j'irais de cette façon-là. Oui, effectivement, je fais beaucoup d'AL, fait que pas vraiment de power là-dessus. Là. Je dis que c'est dans le module, puis je leur donne ce qui est à la fin. J'aimerais peut-être qu'éventuellement, il y ait peut-être un petit peu plus de latitude là-dessus, mais je pense pas que ça va arriver parce que ça va peut-être briser le jeu un petit peu. Hein.
Ouais, c'est toujours de l'abus du monde. Hein. C'est toujours ça le monde du problème.
Je sais qu'on peut pas avoir des belles affaires à cause du monde qui abuse. Mais c'est même en AL... quelque chose que les joueurs ont découvert dernièrement, c'est qu'il y a un groupe d'échange d'items magiques. Donc des joueurs avec qui jouaient, qui avaient des items magiques qu'ils avaient trouvés ou débarrés, soit avant la saison 8, ou des items qu'ils pouvaient potentiellement débarrer, qui avaient des treasure points pour, mais qui étaient, ils disaient, OK, mais moi, j'ai pas vraiment d'utilité pour ça. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Adventurers League Magic Item Trade. Donc, c'est possible... avec les règles déjà mises en place, de faire des échanges pour des items de même table ou autre, là, donc de mieux encadrer son personnage si on veut, puis d'échanger des items que toi te servent pas vraiment, mais qui pourraient servir à quelqu'un d'autre. Puis si cette personne-là a quelque chose d'équivalent en échange, il y a moyen là, d'aller chercher des items intéressants sans avoir à faire toutes les aventures.
Ce que j'ai fait allègrement cette semaine, puisque j'avais une grosse rencontre qui s'en venait à ta partie de jeudi, donc je me suis équipé un petit peu mieux là, en version... surtout avec la ceinture de force.
Donc, Xanatar aussi a échangé une couple de ses systèmes pour contrer ce que la main
c'est ça, ça n'a pas donné grand-chose.
No spoilers.
Non, yeah, no spoilers.
C'est ta faute, on peut voir les belles affaires.
J'ai changé trois yeux pour trois autres yeux un peu plus spéciales.
Hey, ça va finir l'épisode de cette semaine, les gars. Merci beaucoup. C'était super cette discussion-là. J'espère que ça vous a plu. J'invite tout le monde à nous suivre, en fait, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, on est un peu partout. De consulter le site coupcritique.ca. Vous pouvez trouver des articles, entrer en contact avec nous aussi par là. Je vous invite aussi à noter le podcast sur les différentes plateformes. Un petit 5 étoiles, ça nous aide à monter dans les palmarès, à faire découvrir notre podcast, à faire découvrir le projet. Puis n'hésitez pas à nous envoyer des suggestions aussi sur ce que vous voulez qu'on parle, sur des choses que vous voulez qu'on aborde. aborde. On est en train de parler sur plein d'autres projets aussi qu'on veut faire ici. On veut vous montrer plus de jeux de rôle en temps réel. On veut créer plus de choses. Et je vais terminer avec notre Patreon, en fait, qui existe encore. Donc, vous pouvez vous abonner par Patreon. Vous avez accès aux épisodes en avance lorsqu'ils sont prêts. Vous pouvez et on peut même dire votre nom dans le podcast, qui est quand même un peu quand même le fun, dit par nos belles voix charmantes et
suave.
Ouais, suave. Fait que, les gars, qu'est-ce que vous avez prévu cette semaine, vous autres?
Deux parties. La première avec toi, Francis, demain. Comme joueur, mon barbare va monter niveau 5. Je crois que c'est une 4 heures, donc je devrais être en mesure de faire la suite et de voir mon level up. 2 heures. Ouais. Ben, je vais prendre mon mal en patience à ce moment-là. j'ai la fin de la saison 8, le tiers 2 de Skullport avec la gang Juicy que je DM pour les pousser vers le tiers 3 là, puis peut-être essayer de commencer le tiers 3 bientôt.
Ouh.
Moi, demain, je vais avoir Spider-Man, même si ça n'a rien à voir avec le jeu de rôle.
Mais non, c'est là, tu
sais. Fan de Marvel, j'ai bien hâte de voir. Et puis, jeudi, je vais arracher les yeux de Xanator pour m'en faire des antennes. Et puis, dimanche, en fait, avec Eric, je vais co-DM une partie avec Eric pour une jeune famille qui...
Hey, c'est vrai, on a ça à faire.
Ouais.
Ou je fais ça.
Ça sera notre podcast.
Une belle introduction pour dimanche, ça va être vraiment le fun. J'ai bien hâte de faire découvrir ça à des gens. Moi, je vais participer en tant que joueur et en tant que création de personnages afin de un peu les diriger et les aider. Toi,
Mike?
Moi, c'est léger cette semaine. En fait, je vais être joueur partie d'Eric jeudi pour la trilogie de Xanator et je vais essayer de tenir mon asset, la Mac, en vie, en fait, pendant qu'il fait ses folies. Donc, c'est pas mal ça. Moi, je suis en vacances, fait que c'est pas mal léger cette semaine. Mon groupe est aussi en vacances, fait qu'on a un hiatus de peu près 3 semaines.
Ah, il fait beau, c'est ça que ça fait, hein?
Ah, c'est quand ton DM s'en va en Suisse pour 3 semaines, c'est pas mal ça que ça fait.
Bonne chance pour t'approcher demain, Francis. Bon, un bon DMing.
Ouais, ben la première, c'est la deuxième fois que je le roule, fait que je suis confiant. C'est une aventure quand même le fun, je crois. En tout cas, j'en dirais pas plus parce qu'on a un joueur ici, là. Mais j'ai bien hâte. Sinon, écoutez, on va essayer de profiter en masse du soleil et du beau temps que nous offre nos 2 semaines d'été au Québec. Donc, sur ça, la gang, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.
C'est bon.
Ciao.
Salut.
Ce podcast est rendu possible grâce à l'appui de nos amis sur Patreon, dont Ludovic Gass. Merci beaucoup et à la prochaine.